La Cadière obtint de sa mère qu'elle pût aller à Marseille avec cette bonne guillole et Madame Cadière paya la dépense. C'était au mois de plus brûlant, de la brûlante contrée, en août 1729, quand toute la campagne tarine offre à l'œil qu'un âpre miroir de roc et de cailloux. Le faible cerveau desséché de la jeune malade, sous la fatigue du voyage, reçut d'autant mieux la funeste impression de ces mortes de couvent. Le vrai type du genre était cette sœur Rémusa, déjà à l'état de cadavre et qui réellement mourut. La Cadière admira une si haute perfection. Sa compagne perfide la tenta de l'idée orgueilleuse d'en faire autant et de lui succéder. Pendant ce court voyage, Girard, resté dans le brûlant étouffement de Toulon, avait fort tristement baissé. Il allait fréquemment chez cette petite logier qui croyait aussi avoir des extases, la consolait, si bien que tout à l'heure elle est enceinte. Lorsque Mademoiselle Cadière lui revint ailée, exaltée, lui au contraire charnel, tout livré au plaisir, lui jeta un souffle d'amour. Elle en fut embrasée, mais, on le voit, à sa manière, pure, sainte et généreuse, voulant l'empêcher de tomber, s'y dévouant jusqu'à mourir pour lui, septembre 1729. Un de ses dons de sa sainteté, c'est qu'elle voyait au fond des cœurs. Il lui était arrivé parfois de connaître la vie secrète, les mœurs de ses confesseurs, de les avertir de leurs fautes, ce que plusieurs, étonnés, atterrés, avaient pris humblement. Un jour de cet été, voyant entrer chez elle la guillole, elle lui dit tout à coup « Ah, méchante, qu'avez-vous fait ?» Et elle avait raison, dit plus tard la guillole elle-même. « Je venais de faire une mauvaise action. Laquelle ? Probablement de livrer la logier. On est tenté de le croire quand on la voit l'année suivante vouloir livrer la bâtarelle. » La logier, qui souvent couchait chez la Cadière, pouvait fort bien lui avoir confié son bonheur et l'amour du saint, ses paternelles caresses. Dure épreuve pour la Cadière et grande agitation d'esprit. D'une part, elle savait à fond la maxime de Girard, qu'en un saint, tout acte est saint. Mais d'autre part, son honnêteté naturelle, toute son éducation antérieure, l'obligeait à croire qu'une tendresse excessive pour la créature était toujours un péché mortel. Cette perplexité douloureuse entre deux doctrines acheva la pauvre fille, lui donna d'horribles tempêtes, et elle se crut obsédée du démon. Là parut encore son bon cœur. Sans humilier Girard, elle lui dit qu'elle avait la vision d'une âme tourmentée d'impureté et de péché mortel, qu'elle se sentait le besoin de sauver cette âme, d'offrir au diable victime pour victime, d'accepter l'obsession et de se livrer à sa place. Il ne le lui défendit pas, lui permit d'être obsédée, mais pour un an seulement, novembre 1729. Elle savait, comme toute la ville, les scandaleuses amours du vieux père Sabatier, insolent, furieux, nullement prudent comme Girard. Elle voyait le mépris où les jésuites, qu'elle croyait le soutien de l'Église, ne pouvaient manquer de tomber. Elle dit un jour à Girard « J'ai eu une vision, une mer sombre, un vaisseau plein d'âmes, battu de l'orage des pensées impures, et sur le vaisseau, deux jésuites. J'ai dit au Rédempteur que je voyais au ciel, « Seigneur, sauvez-les, noyez-moi, je prends sur moi tout le naufrage. » Et le bon Dieu me l'accorda. Jamais, dans le court procès, et lorsque Girard, devenu son cruel ennemi, poursuivit sa mort, elle ne revint là-dessus. Jamais elle n'expliqua ces deux paraboles de sens si transparent. Elle eut cette noblesse de n'en pas dire un mot. Elle s'était dévouée. À quoi ? Sans doute à la damnation. Voudra-t-on dire que par orgueil, se croyant impassible et morte, elle défiait l'impureté que le démon infligeait à l'homme de Dieu ? Mais il est très certain qu'elle ne savait rien précisément des choses sensuelles, qu'en ce mystère elle ne prévoyait rien que douleur, torture du démon. Girard était bien froid et bien indigne de tout cela. Au lieu d'être attendri, il se joua de sa crédulité par une ignoble fraude. Il lui glissa dans sa cassette un papier où Dieu lui disait que, pour elle, effectivement, il sauverait le vaisseau. Mais il se garda d'y laisser cette pièce ridicule. En la lisant et relisant, elle aurait pu s'apercevoir qu'elle était fabriquée. L'ange qui apporta le papier, un jour après, le remporta. Avec la même indélicatesse, Girard, la voyant agitée et incapable de prier, lui permit légèrement de communier, tant qu'elle voudrait, tous les jours, dans différentes églises. Elle n'en fut que plus mal. Déjà pleine du démon, elle logeait ensemble les deux ennemis. À force égale, il se battait en elle. Elle croyait éclater et crever. Elle tombait, s'évanouissait et restait ainsi plusieurs heures. En décembre, elle ne sortit plus guère, même de son lit. Girard eut un trop bon prétexte pour la voir. Il fut prudent, s'y faisant toujours conduire par le petit frère, du moins jusqu'à la porte. La chambre de la malade était au haut de la maison. La mère restait à la boutique discrètement. Il était seul, tant qu'il voulait, et s'il voulait, tournait la clé. Elle était alors très malade. Il la traitait comme un enfant. Il l'avançait un peu sur le devant du lit, lui tenait la tête, la baisait paternellement. Tout cela reçu avec respect, tendresse, reconnaissance. Très pure, elle était très sensible. À tel contact léger qu'une autre n'eût pas remarqué, elle perdait connaissance. Un frôlement près du sein suffisait. Girard en fit l'expérience, et cela lui donna de mauvaises pensées. Il la jetait à volonté dans ce sommeil, et elle ne songeait nullement à s'en défendre, ayant toute confiance en lui, inquiète seulement, un peu honteuse de prendre avec un tel homme tant de liberté et de lui faire perdre un temps si précieux. Il y restait longtemps. On pouvait prévoir ce qui arriva. La pauvre jeune fille, toute malade qu'elle fût, n'en porta pas moins à la tête de Girard un invincible enivrement. Une fois, en s'éveillant, elle se trouva dans une posture très ridiculement indécente. Une autre, elle le surprit qui la caressait. Elle rougit, gémit, se plaignit. Mais il lui dit impudemment « Je suis votre maître, votre Dieu, vous devez tout souffrir au nom de l'obéissance. » Vers Noël, à la grande fête, il perdit la dernière réserve. Au réveil, elle s'écria « Mon Dieu, que j'ai souffert !»« Je le crois, pauvre enfant, » dit-il d'un ton compatissant. Depuis, elle se plaignit moins, mais ne s'expliquait pas ce qu'elle éprouvait dans le sommeil. Girard comprenait mieux, mais non sans terreur, ce qu'il avait fait. En janvier, février, un signe trop certain l'avertit de la grossesse. Pour comble d'embarras, la logier aussi se trouva enceinte. Ses parties de dévote, ses mangeries, arrosées indiscrètement du petit vin du pays, avaient eu pour premier effet l'exaltation naturelle chez une race si inflammable, l'extase contagieuse. Chez les rusés, tout était contrefait, mais chez cette jeune logier, sanguine et véhémente, l'extase fut réelle. Elle eut dans sa chambrette de vrais délires, des défaillances, surtout quand Girard y venait. Elle fut grosse, un peu plus tard que la cadière, sans doute aux fêtes des rois. Péril très grand. Elle n'était pas dans un désert, ni au fond d'un couvent, intéressée à étouffer la chose, mais, pour ainsi dire, en pleine rue. La logier au milieu des voisines curieuses, la cadière dans sa famille. Son frère, le Jacobin, commençait à trouver mauvais que Girard lui fît de si longues visites. Un jour, il osa rester près d'elle quand Girard y vint, comme pour la garder. Girard, hardiment, le mit hors de la chambre et la mère indignée chassa son fils de la maison. Cela tournait vers un éclat. Nul doute que ce jeune homme, si durement traité, chassé de chez lui, gonflé de colère, n'alla crier au prêcheur et que ceux-ci, saisissant une si belle occasion, ne courussent répéter la chose et, en dessous, n'ameutassent toute la ville contre le jésuite. Il prit un étrange parti, de faire face par un coup hardi et de se sauver par le crime. Le libertin devint un scélérat. Il connaissait bien sa victime. Il avait vu la trace des scrofules qu'elle avait eue enfant. Cela ne ferme pas nettement comme une blessure. La peau y reste rosée, mince et faible. Elle en avait eu au pied, et elle en avait aussi dans un endroit délicat, dangereux, sous le sein. Il eut l'idée diabolique de lui renouveler ses plaies, de les donner pour des stigmates, tels qu'en ont obtenu du ciel saint François et d'autres saints, qui, cherchant l'imitation et la conformité complète avec le crucifié, portaient et la marque des clous et le coup de lance au côté. Les jésuites étaient désolés de n'avoir rien à opposer au miracle des jansénistes. Girard était sûr de les charmer par un miracle inattendu. Il ne pouvait manquer d'être soutenu par les siens, par leur maison de Toulon. L'un, le vieux sabatier, était prêt à croire tout. Il avait été jadis le confesseur de la cadière, et la chose lui eût fait honneur. Un autre, le père Grignier, était un béat imbécile, qui verrait tout ce qu'on voudrait. Si les carmes ou d'autres s'avisaient d'avoir des doutes, on les ferait avertir de si haut qu'ils croiraient prudent de se taire. Même le jacobin Cadière, jusque-là ennemi et jaloux, trouverait son compte à revenir, à croire une chose qui ferait la famille si glorieuse, et lui, le frère d'une sainte. Mais, dira-t-on, la chose n'était-elle pas naturelle? On a des exemples innombrables, bien constatés, de vrais stigmatisés. Le contraire est probable. Quand elle s'aperçut de la chose, elle fut honteuse et désolée, craignant de déplaire à Gérard par ce retour des petits mots d'enfance. Elle alla vite chez une voisine, une Madame Truc, une femme qui se mêlait de médecine, et lui acheta, comme pour son jeune frère, un onguent qui brûlait les plaies. Pour faire ses plaies, comment le cruel s'y prit-il? Enfonça-t-il les ongles? Usa-t-il d'un petit couteau que toujours il portait sur lui? Ou bien attira-t-il le sang la première fois, comme il le fit plus tard, par une forte succion? Elle n'avait pas sa connaissance, mais bien sa sensibilité. Nul doute qu'à travers le sommeil, elle n'ait senti la douleur. Elle eût cru faire un grand péché si elle n'eût tout dit à Gérard. Quelque crainte qu'elle eût de déplaire et de dégoûter, elle dit la chose. Il vit et il joua sa comédie, lui reprocha de vouloir guérir et de s'opposer à Dieu. Ce sont les célestes stigmates. Il se met à genoux, baise les plaies des pieds. Elle se signe, s'humilie, elle fait difficulté de croire. Gérard insiste, la gronde, lui fait découvrir le côté, admire la plaie. « Et moi aussi je l'ai, dit-il, mais intérieure. » La voilà obligée de croire qu'elle est un miracle vivant. Ce qui aidait à lui faire accepter une chose si étonnante, c'est qu'à ce moment, la sœur Rémusa venait de mourir. Elle l'avait vue dans la gloire, et son cœur porté par les anges. Qui lui succéderait sur la terre? Qui hériterait des dons sublimes qu'elle avait eus, des faveurs célestes dont elle était comblée? Gérard lui offrit la succession et la corrompit par l'orgueil. Dès lors, elle changea. Elle sanctifia vaniteusement tout ce qu'elle sentait des mouvements de nature. Les dégoûts, les tressaillements de la femme enceinte auxquels elle ne comprenait rien, elle les mit sur le compte des violences intérieures de l'esprit. Au premier jour de carême, étant à table avec ses parents, elle voit tout à coup le Seigneur. « Je veux te conduire au désert, dit-il, t'associer aux excès d'amour de la sainte quarantaine, t'associer à mes douleurs. » Elle frémit, elle a horreur de ce qu'il faudra souffrir, mais seule elle peut se donner pour tout un monde de pécheurs. Elle a des visions sanglantes, elle ne voit que du sang, elle aperçoit Jésus comme un crible de sang, elle-même crachait le sang et elle en perdait encore d'autres façons. Mais en même temps, sa nature semblait changer. À mesure qu'elle souffrait, elle devenait amoureuse. Le 20e jour du carême, elle voit son nom uni à celui de Gérard. L'orgueil alors exalté, stimulé du sens nouveau qui lui venait, l'orgueil lui fait comprendre le domaine spécial que Marie, la femme, a sur Dieu. Elle sent combien l'ange est inférieur au moindre saint, à la moindre sainte. Elle voit le palais de la gloire et se confond avec l'agneau. Pour comble d'illusions, elle se sent soulevée de terre, montée en l'air à plusieurs pieds. Elle peut à peine le croire, mais une personne respectée, Mademoiselle Gravier, le lui assure. Chacun vient, admire, adore. Gérard amène son collègue Griguet, qui s'agenouille et pleure de joie. N'osant y aller tous les jours, Gérard la faisait venir souvent à l'église des Jésuites. Elle s'y traînait à 1 heure après les offices, pendant le dîner. Personne alors dans l'église. Il s'y livrait devant l'autel, devant la croix, à des transports que le sacrilège rendait plus ardents. N'y avait-elle aucun scrupule? Pouvait-elle bien s'y tromper? Il semble que sa conscience, au milieu d'une exaltation sincère encore et non jouée, s'étourdissait pourtant déjà, s'obscurcissait. Sous les stigmates sanglants, ces faveurs cruelles de l'époux céleste, elle commençait à sentir d'étranges dédommagements. Heureuse de ses défaillances, elle y trouvait, disait-elle, des peines d'infinie douceur et de je ne sais quel flot de la grâce jusqu'au consentement parfait. Elle fut d'abord étonnée et inquiète de ces choses nouvelles. Elle en parla à la guillole, qui sourit, lui dit qu'elle était bien sotte, que ce n'était rien, et cyniquement, elle ajouta qu'elle en éprouvait tout autant. Ainsi, ses perfides commères aidaient de leur mieux à corrompre une fille née très honnête, et chez qui les sens retardés ne s'éveillaient qu'à grand-peine sous l'obsession odieuse d'une autorité sacrée. 2 choses attendrissent dans ses rêveries. L'une, c'est le pur idéal qu'elle se faisait de l'union fidèle, croyant voir le nom de Girard et le sien unis à jamais au livre de vie. L'autre chose touchante, c'est sa bonté qui éclate parmi les folies, son charmant cœur d'enfant. Au jour des rameaux, en voyant la joyeuse table de famille, elle pleura 3 heures de suite de songer qu'au même jour, personne n'invita Jésus à dîner. Pendant presque tout le carême, elle ne put presque pas manger. Elle rejetait le peu qu'elle prenait. Aux 15 derniers jours, elle jeûna entièrement et arriva au dernier degré de faiblesse. Qui pourrait croire que Girard, sur cette mourante qui n'avait plus que le souffle, exerça de nouveau ses vices? Il avait empêché ses plaies de se fermer. Il lui en vint une nouvelle au flanc droit. Et enfin, au Vendredi Saint, pour l'achèvement de sa cruelle comédie, il lui fit porter une couronne de fil de fer qui, lui entrant dans le front, lui faisait couler sur le visage des gouttes de sang. Tout cela sans trop de mystère. Il lui coupa d'abord ses longs cheveux, les emporta, il commanda la couronne chez un certain Bitard, marchand du port, qui faisait des cages. Elle n'apparaissait pas aux visiteurs avec cette couronne, on n'en voyait que les effets, les gouttes de sang, la face sanglante. On y imprimait des serviettes, on en tirait des Véroniques, que Girard emportait pour les donner, sans doute, à des personnes de piété. La mère se trouva malgré elle complice de la jonglerie, mais elle redoutait Girard. Elle commençait à voir qu'il était capable de tout, et quelqu'un de bien confident, très probablement la Guillole, lui avait dit que si elle disait un mot, sa fille ne vivrait pas 24 heures. Pour la Cadière, elle ne mentit jamais là-dessus. Dans le récit qu'elle a dicté de ce carême, elle dit expressément que c'est une couronne à pointe qui, enfoncée dans sa tête, la faisait saigner. Elle ne cache pas non plus l'origine des petites croix qu'elle donnait à ses visiteurs. Sur un modèle fourni par Girard, elle les commanda à un de ses parents, charpentier de l'Arsenal. Elle fut, le Vendredi Saint, 24 heures dans une défaillance qu'on appelait une extase, livrée aux soins de Girard, soins énervants, meurtriers. Elle avait 3 mois de grossesse. Il voyait déjà la sainte, la martyre, la miraculée, la transfigurée, qui commençait à s'arrondir. Il désirait et redoutait la solution violente d'un avortement. Il le provoquait en lui donnant tous les jours de dangereux breuvages, des poudres rougeâtres. Il l'aurait mieux aimée morte, cela l'aurait tiré d'affaire. Du moins, il aurait voulu l'éloigner de chez sa mère, la cacher dans un couvent. Il connaissait ses maisons et savait, comme Picard, voire plus haut, l'affaire de Louvier. Avec quelle adresse, quelle discrétion on y couvre ces sortes de choses. Il voulait l'envoyer ou aux chartreuses de Prémol ou à Sainte-Claire d'Olioul. Il en parla même le Vendredi Saint. Mais elle paraissait si faible qu'on osait la tirer de son lit. Enfin, 4 jours après Pâques, Girard étant dans sa chambre, elle eut un besoin douloureux et perdit d'un coup une forte masse qui semblait du sang coagulé. Il prit le vase, regarda attentivement à la fenêtre, mais elle, qui ne soupçonnait nul mal à cela, elle appela la servante, lui donna le vase à vider. Quelle imprudence ! Ce cri échappa à Girard, et sottement il le répéta. On n'a pas autant de détails sur l'avortement de la logier. Elle s'était aperçue de sa grossesse dans le même carême. Elle y avait eu d'étranges convulsions, des commencements de stigmates assez ridicules. L'un était un coup de ciseau qu'elle s'était donné dans son travail de couturière, l'autre une dartre vive au côté. Ses extases tout à coup tournèrent en désespoir impie. Elle crachait sur le crucifix, elle criait contre Girard. « Où est-il, ce diable de père qui m'a mise dans cet état? Il n'était pas difficile d'abuser une fille de 22 ans. Où est-il? Il me laisse là, qu'il vienne !» Les femmes qui l'entouraient étaient elles-mêmes des maîtresses de Girard. Elles allaient le chercher, et il n'osait pas venir affronter les emportements de la fille enceinte. Ses commères, intéressées à diminuer le bruit, purent sans lui trouver un moyen de tout finir sans éclat. Girard était-il un sorcier, comme on le soutint plus tard? On aurait bien pu le croire en voyant combien aisément, sans être ni jeune ni beau, il avait fasciné tant de femmes. Mais le plus étrange, ce fut, après s'être tellement compromis, de maîtriser l'opinion. Il parut un moment avoir ensorcelé la ville elle-même. En réalité, on savait les jésuites puissants. Personne ne voulait entrer en lutte avec eux. Même, on ne croyait pas sûr d'en parler mal à voix basse. La masse ecclésiastique était surtout de petits moines d'ordre mendiant, sans relations puissantes ni haute protection. Les carmes même, fort jaloux et blessés d'avoir perdu la cadière, les carmes se turent. Son frère, le jeune jacobin, prêché par une mère tremblante, revint au ménagement politique, se rapprocha de Girard, enfin se donna à lui, autant que le dernier frère, au point de lui prêter son aide dans une étrange manœuvre qui pouvait faire croire que Girard avait le don de prophétie. S'il avait à craindre quelque faible opposition, c'était de la personne même qu'il semblait avoir le plus subjugué. L'Acadière, encore soumise, donnait pourtant de légers signes d'une indépendance prochaine qui devait se révéler. Le 30 avril, dans une partie de campagne que Girard organisa galamment, et où il envoya, avec la guillole, son troupeau de jeunes dévotes, l'Acadière tomba en grande rêverie. Ce beau moment du printemps, si charmant dans ce pays, éleva son cœur à Dieu. Elle dit, avec un sentiment de véritable piété, « Vous seul, Seigneur, je ne veux que vous seul. Vos anges ne me suffisent pas. » Puis une d'elles, fille fort gaie, ayant à la provençale pendu à son cou un petit tambourin, l'Acadière fit comme les autres, sauta, dansa, se mit un tapis en écharpe, fit la bohémienne, s'étourdit par sans folie. Elle était fort agitée. En mai, elle obtint de sa mère de faire un voyage à la Sainte-Baume, à l'église de la Madeleine, la grande sainte des filles pénitentes. Girard ne la laissa aller que sous l'escorte de deux surveillantes fidèles, la Guillole et la Reboule. Mais en route, quoique par moments elle eût encore des extases, elle se montra lasse d'être l'instrument passif du violent esprit, infernal ou divin, qui la troublait. Le terme annuel de l'obsession n'était pas éloigné. N'avait-elle pas gagné sa liberté? Une fois sortie de la sombre et fascinante Toulon, replacée dans le grand air, dans la nature, sous le soleil, la captive reprit son âme, résista à l'âme étrangère, osa être elle-même, vouloir. Les deux espionnes de Girard en furent fort mal édifiées. Au retour de ce court voyage, du 17 au 22 mai, elles l'avertirent du changement. Il s'en convainquit par lui-même. Elle résista à l'extase, ne voulant plus, se semblait, n'obéir qu'à la raison. Il avait cru la tenir, et par la fascination, et par l'autorité sacrée, enfin, par la possession et l'habitude charnelle. Il ne tenait rien. La jeune âme qui, après tout, avait été moins conquise que surprise, traîtreusement, revenait à sa nature. Il fut blessé. De son métier de pédant, de la tyrannie des enfants châtiés à volonté, de celle des religieuses non moins dépendantes, il lui restait un fond dur de domination jalouse. Il résolut de ressaisir l'Acadière en punissant cette première petite révolte, si l'on peut nommer ainsi le timide essor de l'âme comprimée qui se relève. Le 22 mai, lorsque, selon son usage, elle se confessa à lui, il refusa de l'absoudre, disant qu'elle était si coupable qu'il devait lui infliger le lendemain une grande, très grande pénitence. Quelle serait-elle? Le jeûne? Mais elle était déjà affaiblie et exténuée. Les longues prières, autres pénitences, n'étaient pas dans les habitudes du directeur quiétiste. Il les défendait. Restait le châtiment corporel, la discipline. C'était la punition d'usage universel, prodiguée dans les couvents autant que dans les collèges. Moyen simple et abrégé de rapide exécution, qui, autant simples et rudes, s'appliquaient dans l'église même. On voit dans les fabliaux, naïve peinture des mœurs, que le prêtre, ayant confessé le mari et la femme, sans façon, sur la place même, derrière le confessionnal, leur donnait la discipline. Les écoliers, les moines, les religieuses n'étaient pas punis autrement. Girard savait que celle-ci, nullement habituée à la honte, très pudique, n'ayant rien subi qu'à son insu dans le sommeil, souffrirait extrêmement d'un châtiment indécent, en serait brisée, perdrait tout ce qu'elle avait de ressort. Elle devait être humiliée plus encore peut-être qu'une autre, pâtir, s'il faut l'avouer, en sa vanité de femme. Elle avait tant souffert, tant jeûné, puis était venu l'avortement. Son corps, délicat de lui-même, semblait n'être plus qu'une ombre. D'autant plus certainement, elle craignait de rien laisser voir de sa pauvre personne, maigrie, détruite, endolorie. Le récit choquant qu'on va lire est tiré textuellement de ces trois dépositions, si naïves, d'évidente véracité. Nous aurions voulu l'abréger pour le rendre moins pénible. Mais alors, il eût été de nulle importance et de nulle utilité. L'histoire, la justice commande, obéissons, le voici. Il fut sans pitié. Il dit, « Puisque vous avez refusé d'être revêtu des dons de Dieu, il faut que vous soyez nus, et vous mériteriez de l'être devant toute la terre, au lieu de l'être devant votre confesseur qui n'en dira rien. Mais jurez-moi le secret. Si vous en parliez, vous me perdriez. » Sans la dépouiller entièrement encore, il la fit monter sur le lit et dit « Vous mériteriez, non ce lit, mais l'échafaud que vous avez vu à Aix. » Effrayée et frissonnante, elle ne disputa pas, s'humilia. Elle avait les jambes enflées et une petite infirmité qui devait la désoler. Alors, d'une discipline, il lui donna quelques coups. Elle avait été étonnée de voir qu'au milieu de tant de menaces, il lui avait pourtant mis un coussin sous chaque coude. Mais elle le fut bien plus quand ce juge, ce père irrité, la surprit d'un baiser étrange, impudique, inattendu. Monstrueuse inconséquence, folle adoration dont l'amour n'est point ici du tout l'excuse. Ce qui fait horreur, c'est qu'alors il l'aimait peu, ne la ménageait guère. On a vu ses cruels breuvages et l'on va voir son abandon. Il lui en voulait de valoir mieux que ces femmes avilies. Il lui en voulait de l'avoir tentée, si innocemment, compromis. Mais surtout, il ne lui pardonnait pas de garder une âme. Il ne voulait que la dompter, mais accueillait avec espoir le mot qu'elle disait souvent « Je le sens, je ne vivrai pas ». Libertinage scélérat, il donnait de honteux baisers à ce pauvre corps brisé qu'il eût voulu voir mourir. Elle était hors d'elle-même, ne savait plus que penser. Il lui dit « Ce n'est pas tout, le bon Dieu n'est pas satisfait ». Il la fit descendre du lit, mettre à genoux, lui signifia qu'il fallait qu'elle fût toute nue. À cela, elle poussa un cri et demanda grâce, mais c'était trop d'émotion, elle tomba dans ses défaillances et fut à sa discrétion. Tout hébétée qu'elle était, elle sentit au contact certaines divines douceurs qui ne dura guère. Au moment où elle reprit connaissance, il l'étreignit et lui fit une douleur toute nouvelle qu'elle n'avait jamais éprouvée. Comment lui expliqua-t-il ces contradictions choquantes de caresses et de cruauté? Les donna-t-il pour des épreuves de patience et d'obéissance? Ou bien passa-t-il hardiment au vrai fond de Molinos, que c'est à force de péché qu'on fait mourir le péché? Prit-elle cela au sérieux? Et ne comprit-elle pas que ces semblants de justice, d'expiation, de pénitence n'étaient que libertinage? Elle ne voulait pas le savoir, dans l'étrange débâcle morale qu'elle eut après ce 23 mai, en juin, sous l'influence de la molle et chaude saison. Elle subissait son maître, ayant peur un peu de lui, et d'un étrange amour d'esclave, continuant cette comédie de recevoir chaque jour de petites pénitences. Girard la ménageait si peu qu'il ne lui cachait pas même ses rapports avec d'autres femmes. Il voulait la mettre au couvent. Elle était, en attendant, son jouet. Elle le voyait, laissait faire. Faible et affaiblie encore par ses hontes énervantes, de plus en plus mélancolique, elle tenait peu à la vie et répétait ses paroles, nullement tristes pour Girard, « Je le sens, je mourrai bientôt ».